Bonsoir! Bonsoir! Bonsoir tout le monde, comment ça va? Attendez, j'augmente un peu dans mon casque, ouais, c'est bon. Ok, nickel. Bonsoir! Bonsoir tout le monde! Bienvenue! Ah merde, j'ai pas tweeté. Attendez, faut que j'influence. Non, mais c'est pas grave, il y aura pas de tweet ce soir. Non, mais les gens savent, les meilleurs savent que c'est là que ça se passe. Hop. Sans déconner, t'as commencé à parler, mon chat s'est réveillé et commence à bolosser les enceintes. Première fois que j'assiste à un stream de Massier. Ah! Bon courage. Accroche-toi. Les sorties de secours se trouvent à l'avant et à l'arrière de l'appareil, tout ça, tout ça. Est-ce que vous allez bien? Hein, je n'ai pas pu m'empêcher de haïr. De headbanger. Non, t'as mal écrit. Oui, de headbanger sur ce générique d'intro. Évidemment, faut headbanger. Faut booty shake. Bonsoir à toutes et à tous. J'espère que ça roule pour vous. J'ai pas fait de stream ce week-end. J'avais du boulot et j'étais fatigué. Et voilà. Du coup, j'ai dormi. Ça va froidement, mais ça va. Oh, mais ça va. Ça va le faire. Il fait froid. Le réchauffement climatique, c'est fake news. T'as vu? On le savait de toute façon. C'était sûr. Alors, les chiffres de la pré-rentrée, ça donne quoi? Ah, de Baxit? Ah, bah c'était vachement bien, vous étiez super nombreux. Ah oui, c'est vrai que du coup, on n'a pas débriefé. c'était cool. Merci, j'ai du temps pour ton Prime, merci beaucoup. Merci pour vos pro merci pour vos subs et vos resubs, merci à tous. Merci, merci. Ouais, c'était cool, j'étais très content de vous retrouver, très content de cette petite émission de pré-rentrée malgré quelques petits bugs de son qu'on a eu, mais c'est pas bien grave. C'est normal, c'était l'émission de pré-rentrée et voilà, et on se prépare pour la vraie première qui a lieu ce jeudi en public avec vous. D'ailleurs, puisqu'on en parle, je vous rappelle que sur le uTip, hop, attendez, hop. Regardez. Non, c'est toujours pas le bon écran. Eh, il va vraiment falloir que. Boum. Sur le YouTube, déjà, merci à tous pour votre soutien. Merci beaucoup, vous êtes incroyables. Merci aux 2595 personnes qui ont fait un don. Merci beaucoup. Vous pouvez aller sur le shop pour venir dans l'émission. Vous pouvez acheter un mug, un sweat et un t-shirt, évidemment. Vous serez très beau et très belle. Et vous pouvez viendre dans l'émission. Voilà. Vous pouvez viendre dans l'émission. Comme l'année dernière, c'est venir dans l'émission, c'est un truc que vous avez en échange de votre soutien à Baxit. Merci aux personnes qui soutiennent. Je montre Twitch à mes parents. Bonjour, bienvenue. Vous aussi venez. Et donc voilà, pour 49,30 € évidemment. Comme on l'avait dit, 49,3. Vous pouvez viendre dans l'émission ce jeudi. Ça se passe à Paris, dans le 20e arrondissement, à côté de la place Gambetta. C'est pas loin de la fin de la manif. Moi, je dis ça hein, pour ceux qui vont à la manif contre la réforme des retraites. Je sais pas s'il y aura du monde et tout. On verra. On en parlera, bien entendu. C'est pas très loin de la fin du cortège et c'est pas longtemps après la fin de la manif. Donc venez tranquille, quoi. Ça va être cool. On va être bien. Je viens de découvrir Baxit et ta chaîne, juste incroyable, merci pour le taf, merci à toi le life, merci beaucoup. Fallait l'appeler la formule borne, j'avoue. Et donc du coup ça va être assez simple, on va mettre en vente sur le shop du uTip chaque semaine pour chacune des émissions. Alors peut-être que d'ailleurs on fera des mises en vente pour le mois qui vient, on verra, parce que je sais qu'il y en a qui se préparent pour venir à Paris. Si vous prévoyez de passer à Paris un jeudi, bah prévoyez un petit passage dans l'émission quoi. Petit passage dans le public. Est-ce qu'on peut prendre plusieurs places? Vous pouvez prendre plusieurs places, bien entendu. C'est limité, hein, le nombre de places. Attention, hein. À un moment, il n'y en aura plus. Hein. J'ai déjà filé 49,30 €. Est-ce que je peux venir quand même? En vrai, pour ceux qui ont déjà fait des dons, n'hésitez pas à nous envoyer un mail, ouais, pour nous dire. Normalement, non, mais enfin bon, on va pas vous pénaliser. Ce serait quand même dommage. Donc, si vous avez déjà fait un don, égal ou supérieur à 49,30 €, envoyez-nous un petit mail et puis voilà. Donc, mais venez, j'ai hâte de voir vos bouilles. Tiens, je vais vous dire combien il reste de place en vente. Combien, hein? Alors eux, du coup, je ne sais pas s'ils en ont déjà acheté une ou pas. Ah oui, non, parce que du coup, ouais, d'accord. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Il reste une vingtaine de places. C'était la première fois que je regardais Backseat jeudi dernier et clairement je vais toutes les regarder, ça m'a donné bien envie. Ah bah tant mieux, écoute, je suis très content. Je suis très content que ça t'ait donné envie. Je suis à Paris ce matin à mercredi soir. De ce matin à mercredi soir, parisqué le jeudi avec les grèves. C'est sûr que si vous êtes parisien et que vous habitez à Paris, c'est plus pratique, mais 49 places assises plus 3 debout. J'ai hâte de voir vos bouilles. J'ai hâte de boire des bières avec vous. Mais ouais, non, non, très content de l'émission de pré-rentrée, très content de vous avoir montré du coup les nouvelles chroniques. Donc Vincent Manilev qui nous rejoint, Adèle qui fait une chronique humoristique du coup, qui s'appelle La vie d'Adèle. Et puis voilà quoi. Ça fait 15 minutes que j'essaie de te mettre sur ma télé, j'ai enfin réussi. Quelle idée. Pourquoi la manif c'est un jeudi, c'est pas arrangeant? Ah bah ça. Il paraît que le premier message qu'on écrit dans un chat, il se voit mieux, du coup je me grille maintenant alors que j'ai rien à dire. Effectivement. Un peu short en sous-sous ce mois-ci, la prochaine fois. Merci à toi, Phantom Requiem, merci. C'est pas le principe des grèves d'être arrangeant. Ah bah c'est sûr que si vous vouliez prendre le train pour venir à la manif, il risque d'y avoir des grèves de train, oui. Merci HoloIQ. Elle vous a plu la première émission? Vous étiez content de retrouver Backseat? Nous on était trop contents. C'était bien, j'ai bien aimé. Un bonheur, trop contente aussi, oui. C'était presque court, on en voulait plus. C'était une émission courte, c'est vrai. C'était une émission de 2 h 30. C'était un peu court. Carrément contente. Au top, très bon lancement. T'avais l'air bien stressé. Ouais, bah ouais, j'étais stressé, évidemment. Ça faisait plaisir de revoir toute l'équipe et des nouvelles têtes. Ouais. Sympa de te voir aussi chez Papy Sam. Ouais, chez Samuel Etienne. Du coup, Samuel Etienne qui a annoncé son sponsor, son partenaire pour son émission L'Hebdo Etienne, France Télévisions, qui signe un partenariat avec Samuel Etienne. C'est chouette, ça. Bravo à lui. C'est cool. Ça a du sens. Make sense. Dommage que Zul soit toujours aussi marxiste. Bon, ça donne de l'intérêt. Tu m'accorderas que Usul a un regard intéressant sur les mouvements sociaux. C'est intéressant, c'est... Non, non, mais... Intéressant d'avoir un autre regard sur la politique, loin des chaînes en continu et des chaînes nationales qui abordent toujours les mêmes sujets, bravo. Écoute, tant mieux. Est-ce que France TV, c'est un partenariat que t'accepterais pour Backseat? Bah oui, mais enfin, faut être logique 2 minutes. Déjà, les médias n'ont pas de pognon. Ça, déjà, faut se mettre dans le crâne que les médias n'ont pas d'argent. Et les médias n'ont pas de pognon à mettre dans d'autres médias que les leurs. Et en plus, le jeudi, c'est le jour de l'émission politique de France 2. Donc, France Télévisions va pas sponsoriser une émission politique qui est à la même heure et au même moment, sur le même thème que sa propre émission politique, tu vois. Et c'est pas grave. Mais on aura l'occasion de faire d'autres émissions avec France Télé un jour, hein. Il n'y a pas de... suffit de décaler l'émission de France 2, oui. Merci Mayans pour ton Prime, merci Dolonoff. La caméra est un peu décalée par rapport à d'habitude. Non, pourquoi? Non, c'est la même, elle n'a pas bougé. Je découvre totalement Twitch avec vous. Super intéressant votre truc. Bienvenue à toi. Comme si on irait voir une émission de télé. Ah, bah ça, non, mais. Mais non, non, en tout cas, je suis très content pour Samuel. Bravo à lui, c'est chouette, son émission se développe. En plus, c'était vraiment une émission chouette avec Samuel Etienne vendredi. C'est compliqué parce que, évidemment, on a parlé de la réforme des retraites. Et c'est dans ces moments-là que je me rends compte à quel point la réforme des retraites, c'est aride comme sujet. On était avec Monsieur Poulpe et avec Marie Palot. Du coup, évidemment, t'as tous les regards qui se tournent vers Jean Massier en disant au secours politique, explique-nous. Et je me retrouve à expliquer la réforme des retraites. Et c'est méga aride. C'est très difficile, c'est évidemment. Poulpe était incroyable. Non, mais Poulpe est incroyable. D'ailleurs, ça m'a donné envie d'aller voir son spectacle. Je comprends pas ton switch de fauteuil, t'en avais pas un nouveau. Si, il est là. Il est là, mais il me sert pour mes streams Flight Simulator. Du coup, j'ai mis des roues avec des freins dessus. Est-ce que tu vas pouvoir revisser le micro sur le plateau de Backseat? Oui, je vous rassure. Tu t'en es admirablement sorti sur les retraites. J'ai pas regardé la rediff, faut que je regarde la rediff. Mais ouais, j'ai essayé d'expliquer la réforme des retraites sans en essayant d'éviter d'être chiant, d'être péremptoire ou je sais pas quoi. Ça me perturbe depuis toujours, c'est quoi les deux bidules qui dépassent de la bibliothèque? De quoi? Où ça? À quel endroit? Où tu vois des trucs qui dépassent? En haut à droite. Quoi, là? Ça, c'est des sculptures en bronze, c'est des oiseaux. C'est des décos de jardin normalement. C'est un pote qui m'a offert ça il y a longtemps. C'est des piafs. C'est des hérons, ouais, voilà, c'est ça. En métal. C'est joli de loin. Oui, c'est plus joli de loin que de près, je te l'accorde. Mais ouais, non, c'est. Voilà. Moi, j'ai décidé que c'était des cigognes. C'est ce que vous voulez que ce soit. Il fait peur quand il fixe le monsieur. En bronze, on voit où va l'argent des sommes. Non, non, mais c'est pas en bronze en plus. Qu'est-ce que je raconte? C'est pas du bronze, c'est du. Enfin, c'est du métal, quoi. Je sais pas. Je sais pas, je saurais pas vous dire. Chez Samuel Etienne, on vous demande pas un peu d'être toutologue? Ça me semble compliqué de passer d'un sujet à l'autre en y étant à l'aise partout. Bah, chez Samuel Etienne, on prépare l'émission avant avec Samuel. Samuel demande aux personnes qu'il invite quels sont les sujets de la semaine que ça vous. Quels sont les sujets dont vous voudriez parler? On a une discussion entre nous. Bah, la réforme des retraites, on était un peu d'accord pour dire que c'est l'actu du moment, donc on en a parlé, mais après les autres, on a échangé entre nous. Moi, j'étais prêt à parler de l'uniforme à l'école, puisqu'il y a eu une sortie de Brigitte Macron. Enfin, non, il y a d'autres sujets. Mais après, on prépare l'émission, quoi. Le sujet sur les influenceurs était top. Ouais, bah ouais, ça aussi c'était intéressant. Je suis content qu'on en ait parlé chez Samuel, du coup, ouais. La lutte contre les dérives des influenceurs, l'initiative qui a été lancée par le gouvernement et tout, c'est intéressant. Il y a une proposition de loi qui a été déposée. Je comprends pas pourquoi la barre de Gaulle n'est pas pleine alors que vous lancez la saison 2 de Backseat, tu feras quoi avec plus? Comment ça qu'elle est pas pleine? Bah, elle se remplit avec vos dons, hein. Tu penses quoi de l'uniforme à l'école? Ah, moi je suis assez radicalement, à titre personnel, et je suis parfaitement partant pour qu'on en débatte, mais je suis radicalement opposé à l'idée de l'uniforme à l'école, depuis toujours. C'est contraire à absolument tout ce que je défends pour la jeunesse, donc voilà. Mais ce n'est que mon opinion. Puis de toute façon, il n'y a pas de proposition là sur la table, il n'y a pas de plan précis. La femme d'un président, c'est habituel, les passages télé pour défendre les réformes politiques? Non. Non, non. Non, 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 c'est le statut de première dame. lui donne pas accès au plateau télé habituellement. D'ailleurs, faut reconnaître que comment elle s'appelle, Brigitte Macron, ne fait pas souvent des apparitions télé pour parler de politique. C'est d'ailleurs même pour ça que ça dénote quand elle le fait, c'est que c'est pas fréquent. Une fois, on lui avait tendu un micro pour parler de je sais plus quoi, l'écriture inclusive, où elle avait dit tout le mal qu'elle en pensait. Donc voilà, et là, il se trouve qu'elle a donné son opinion personnelle sur l'uniforme à l'école, qui était une proposition de loi à l'examen au Parlement dans le cadre de la niche du Rassemblement national. Elle a dit qu'elle était pour. Et voilà quoi. Bernadette Chirac était pas mal médiatisée de souvenirs. Oui, mais Bernadette Chirac, elle était à la tête des pièces jaunes. Donc elle faisait bénéficier. Mais ça, alors ça, pour le coup, c'est assez fréquent de la part des premières dames. Elle faisait bénéficier de son image et de sa notoriété pour des œuvres caritatives. Ce qui est ni bien ni mal. Mais c'est pareil, la première dame, la First Lady aux États-Unis aussi, ça a souvent été ça. Hein. Michelle Obama, elle faisait beaucoup de campagnes de communication autour d'un programme pour l'alimentation et le sport, pour lutter contre l'obésité aux États-Unis, qui est un vrai fléau de santé publique. Donc voilà. J'ai l'impression que les premières dames sont moins investies depuis Sarkozy. Oui, non, mais oui, c'est vrai. Bah, Sarkozy, il avait divorcé en cours de mandat. Hollande, il s'était séparé en cours de mandat. Donc oui, c'est vrai. Non, c'est vrai, il faut reconnaître. Le jour où on aura une présidente, on aura un premier homme. Oui. Donc. J'avais vu un thread sur Twitter pour les uniformes au Japon pour débunker le fait que ça gomme les différences sociales. Non, mais c'est. Enfin, bon, le débat sur l'uniforme à l'école, c'est. D'ailleurs, Samuel Etienne, il avait un peu raison. Il disait c'est un marronnier. Vous savez ce que c'est un marronnier? Dans la presse, qu'on appelle un marronnier, c'est un sujet qui revient de manière récurrente. C'est un truc qui revient. Alors, je sais pas exactement quelle est l'étymologie du mot marronnier. Mais ça désigne des sujets un peu nazes sur lesquels c'est facile d'écrire des articles. Ça revient tout le temps. Et donc, on appelle ça un marronnier dans la presse. Donc, tu as des marronniers sur le niveau du bac baisse. Tu as des marronniers sur la franc-maçonnerie. Tu vois, tous les ans, Le Point, L'Express publient des numéros spéciaux sur les francs-maçons. C'est un marronnier. Les premières neiges, oui, alors après, oui, t'as les chassés croisés entre les juilletistes et les haussiens au cœur de l'été. Il fait chaud en été, il fait froid en hiver. Les sauveteurs de la baie d'Arcachon en été, ouais. Oui, non mais c'est vrai, enfin bref, donc voilà, les marronniers et l'uniforme à l'école, c'est un marronnier. Hein. Tous les ans, t'as un micro-débat, un mini-débat médiatique sur l'uniforme à l'école. Voilà. Le jeu vidéo rend fou. Ah oui, le jeu vidéo qui rend violent les ados. Bah ça, tu vois, pour moi, ouais, ça fait partie des marronniers. Et donc l'uniforme à l'école, pareil, c'est un marronnier qui revient à intervalles réguliers. Et effectivement, c'est jamais corrélé à une vraie proposition examinée. C'est-à-dire, y a aucun gouvernement n'a proposé sérieusement la mise en place d'un uniforme à l'école, jamais. C'est jamais que des idées qui sont proposées comme ça dans des tribunes, dans la presse ou par des gens et tout. Et effectivement, l'uniforme à l'école, tous les chercheurs qui se sont penchés un peu sérieusement sur la question expliquent que l'idée d'un uniforme à l'école ne remplit absolument aucun des objectifs qui lui sont attribués. Mais alors absolument aucun. Ça fait pas réduire les inégalités, ça les fait même pas disparaître. C'est pas. Enfin, souvent des sujets réac d'ailleurs les marronniers. Bah non, t'as le classement des plus grandes personnes, des plus grandes fortunes, qui est aussi un marronnier. Ah, l'origine du marronnier, tous les ans au premier jour du printemps. Ah, j'avais pas vu ça. Attendez, il y a quelqu'un qui a mis un message. Tous les ans au premier jour du printemps, un marronnier à fleurs rouges fleurissait sur la tombe des gardes suisses tués lors de la journée du 10 août 1792 dans les jardins des Tuileries à Paris. Et tous les ans, un article paraissait dans la presse pour s'en faire l'écho. C'est marrant, ça. D'accord, ok. Donc c'est là que ça vient, le marronnier. C'était vraiment un marronnier qui fleurissait et on écrivait un putain d'article chaque année. D'accord, ok. C'est marrant. C'est bien qu'on puisse vraiment voir qui est pauvre à l'école pour distinguer ceux qui nous paieront des vers et ceux qui seront radins. Non, puis enfin, j'arrive même pas à savoir qui peut sincèrement croire, sincèrement, hein, que faire porter les mêmes fringues aux élèves va leur éviter de savoir qui est riche et qui est pauvre. C'est pas vraiment. Est-ce que tu vas couvrir la manif du 19? C'est-à-dire couvrir. Qu'est-ce que tu appelles couvrir? Je n'ai pas de moyen de diffuser en direct depuis une manifestation sur ma chaîne Twitch. Non. D'ailleurs, je l'ai jamais fait, je le ferai jamais. Regardez Rémi Buzine, il le fait bien mieux que moi. Si l'uniforme à l'école permet d'avoir des élèves mieux éduqués, je suis pour. Va falloir qu'on apporte la démonstration. Va falloir que quelqu'un apporte la démonstration que ça permet une meilleure éducation des élèves. Ah bon, tu loues pas un hélico pour couvrir la manif? Non, on n'est pas aux États-Unis. Non. Le retour du service militaire, pourquoi pas l'uniforme, je vois pas l'intérêt. Ah, s'il y a un retour du service militaire, tu m'accorderas qu'il y aura un uniforme. C'est un peu le principe du service militaire pour le coup. Mais pourquoi faire le service militaire? Pourquoi faire? Sachant que même dans les écoles privées, même avec un uniforme, on n'arrive pas à gommer les différences. Non, non, mais l'uniforme, ça ne gomme aucune différence, hein. C'est. Je sais même pas d'où ça vient, ce fantasme de. Alors déjà, gommer les différences, j'ai jamais compris en quoi c'était un but en soi. Genre le gommage des inégalités. Genre c'est. Pourquoi? Le gommage, c'est-à-dire. Les inégalités sont tellement insupportables qu'il vaut mieux les dissimuler à nos yeux. Déjà en soi, y a un débat philosophique que je trouve intéressant sur le gommage des inégalités. Et non, non, mais enfin, enfin, je sais pas. Personne n'est dupe, hein. Vraiment, personne n'est dupe. Vous savez, dans Harry Potter, ils portent des uniformes, hein. Tout le monde sait que Ron, il a pas beaucoup d'argent et que Draco, il en a beaucoup. Genre, c'est obvious, tout le monde le sait, les élèves le savent, les profs le savent. Y a pas de. L'uniforme ne change absolument rien. Le fait que tout le monde est au courant, c'est clair, c'est sûr, c'est su. Et c'est pas grave, enfin, je veux dire. Et Hermione se fait traiter de moldu tout le temps. Oui, Hermione se fait traiter de moldu tout le temps, mais oui. Non mais. Sinon, il faudrait adresser les vrais problèmes de répartition des richesses, et là, c'est chiant. Ah bah ouais. Ah non, non, mais. Moi, le débat sur le gommage des inégalités, enfin bon, je vais vous laisser l'avoir sans moi, hein, ça m'intéresse pas. Réduire les inégalités, ouais, je suis plutôt pour. Les gommer, c'est quoi le projet en fait? Les gens seront toujours aussi inégaux, mais ah, ça se verra moins. Ah bah c'est mieux. En quoi c'est mieux? De quoi? Ou alors en vrai, admettons que ce soit en soi souhaitable de gommer les différences entre les jeunes, bah soyons cohérents et rétablissons la non-mixité dans les établissements, faisons des écoles de filles et des écoles de garçons. Allez jusqu'au bout. Allons jusqu'au bout. Bah ouais, les différences de genre. Puis bon, après, enfin, non, mais enfin, bref, vous voyez l'absurdité, c'est un argument par l'absurde, hein, vous l'avez compris, mais faisons un apartheid, hein, des écoles pour les petits noirs, des écoles pour les petits blancs, des écoles pour les petits juifs et tout, ce sera génial. Bah là, il y aura plus de différence. Ah bah, eh. Ah, plus de différence. Ah bah, c'est. Bravo. D'accord. Les écoles de gauchers, les écoles de droitiers. Burqa pour tout le monde. Donne pas des idées aux réas qui seraient capables de les reprendre. Ouais. Je viens de l'école hôtelière, donc j'avais l'uniforme et on savait qu'il y avait de l'argent et qu'il n'en avait pas. Non, non, mais toi. Aucun élève qui est passé par un établissement scolaire avec port de l'uniforme ne peut sérieusement vous dire qu'il ne savait pas qui était riche et qui était pauvre dans sa classe, dans sa bande de potes, dans la cour de récré, etc. Aucun. Genre, sinon, c'est un mensonge. Moi, j'ai porté l'uniforme, c'est le plus gros mensonge de l'histoire. Évidemment que personne n'est dupe et tout le monde sait. Et que ça ne change rien, mais rien, rien, rien. C'est une vue de l'esprit, ce truc. Où t'as porté l'uniforme? Moi, j'ai porté l'uniforme dans un internat privé. J'ai fait plein d'établissements scolaires dans ma vie. Et c'est cool parce que du coup, j'en ai fait plein de modèles différents. Et j'ai porté l'uniforme dans une école. Alors j'ai compris du coup l'uniforme, comment ça marchait, à quoi ça servait. En fait, l'uniforme, c'est pour les établissements privés, c'est un argument marketing pour les clients, qui sont les parents d'élèves. Et ça permet de vendre l'image d'une école. Mais c'est vraiment un truc de dupe, quoi. C'est vraiment un jeu de dupe, hein. En fait, quand on dit que l'uniforme gomme les inégalités, il faut être précis sur aux yeux de qui est-ce que ça gomme les inégalités. Ça ne gomme pas les inégalités aux yeux des élèves. Ça ne gomme pas les inégalités aux yeux des profs et des encadrants et des adultes. Ça gomme les différences et les inégalités aux yeux du monde extérieur de l'école. C'est con, c'est les seuls au fond de qui on s'en fout un peu. Sauf dans le cadre de l'enseignement privé, où c'est un argument commercial intéressant, puisque ça vend l'idée d'une école un peu fantasmée, etc., pour les parents. Qui du coup se projette sur l'uniforme, et c'est normal, c'est comme ça que l'uniforme est vendu, ça projette sur l'uniforme l'idée de la discipline, de l'effort, etc. Je n'ai absolument jamais vu un établissement scolaire avec plus de violence, de harcèlement que cet établissement dans lequel il y avait des uniformes. Une victime de harcèlement scolaire qui se fait tabasser à la récré dans un établissement avec uniforme ou sans uniforme, la seule différence c'est que les mecs sont pas habillés pareil, mais ils se font tabasser pareil. Il n'y a pas de le quart du début d'une différence entre les deux. Ça pareil, hein, l'argument sur ça fait baisser les tensions. Ah bon? Moi, je savais qui était le plus riche malgré l'uniforme de mon collège lycée militaire, car c'était moi. N'hésite pas à faire un droit Brexit, hein. C'est un point de vue de riche que tu as. Après, pas de souci. J'ai eu la chance d'être privilégié toute ma vie, mais malgré tout, je suis pas du tout d'accord avec toi. Et je peux t'assurer que quand tu es dans le bon côté de la barrière, tu te dis argent ou pas, ça change rien. Ah non, je te dis pas que ça change. Non, non, je dis pas que ça change rien d'avoir de l'argent ou pas. Je dis que faire porter aux enfants des fringues, ne change absolument rien à leur connaissance des différences de niveau de vie entre les élèves. C'est juste ça que je dis. Que ça ne change rien. C'est se bercer d'illusions que de croire que parce que tu vas leur faire porter des fringues qui sont les mêmes, les jeunes vont pas voir les inégalités entre eux. Ils les connaissent très bien. Dès le premier jour, hein. En Angleterre, ils portent l'uniforme et il y a tous les mêmes problèmes que dans les autres écoles. Oui, bien sûr. Bien sûr. Après, c'est très anglo-saxon, hein, l'uniforme à l'école, pour plein de raisons. C'est très, très anglo-saxon. C'est pour ça qu'on le retrouve aux États-Unis, en Angleterre, etc. Il y a une autre raison au port de l'uniforme dans ces pays-là, c'est la concurrence entre établissements. Une concurrence d'ordre symbolique, mais importante, où tu as une identité d'établissement qui est cultivée, qui est très très cultivée. Et donc les élèves aux États-Unis font des rencontres sportives inter-établissements et tout. C'est un peu la même logique que vous pouvez retrouver aux États-Unis sur les suites des universités, vous savez, où tous les étudiants portent le suite, soit de l'équipe de foot universitaire, soit avec Harvard University, vous connaissez les suites comme ça. C'est une logique de publicité où chaque élève est un panneau publicitaire pour son établissement, dans une logique de, ouais, les blazers et les teddy, dans une logique de concurrence entre établissements où les universités ou les lycées aux États-Unis sont en concurrence les uns avec les autres pour essayer d'attirer et d'avoir la meilleure réputation, donc les meilleures rentrées, etc. Mais c'est une logique très, très spécifique à des systèmes scolaires qui sont pas les mêmes que les nôtres, où les lycées essayent d'attirer un maximum de candidats. Et donc ils ont des logiques comme ça de publicité. Et cette logique d'identité forte d'établissement, vous la retrouvez dans les Caraïbes, et c'est pour ça qu'on a l'uniforme dans des établissements scolaires, dans les Antilles françaises. Mais c'est très très lié à une culture américaine et caribéenne. Le côté corporate, ouais, c'est un peu ça, c'est le côté corporate. Que vous retrouvez aussi au Japon et en Corée du Sud, ouais. Ouais, absolument. C'est plus pour montrer une appartenance à un club. Donc c'est plus une fierté, en tout cas au Canada, mais c'est un peu pareil aux USA. Oui, c'est ça. Non, non, mais bien sûr. Tu fais de tes étudiants des porte-étendards de l'identité de l'univers, enfin de l'université ou du lycée. Et c'est pour ça d'ailleurs qu'aux États-Unis, il y a un cycle sportif universitaire beaucoup plus développé que ce que tu peux avoir dans d'autres pays. C'est pour ça qu'ils font du foot universitaire, c'est pour ça qu'ils font des rencontres sportives, etc. C'est aussi dans une logique de chaque établissement vient revendiquer sa bannière. C'est un truc d'ailleurs que vous retrouvez dans Harry Potter. Pardon pour le. Mais J.K. Rowling, donc, qui est une Britannique. Elle est dans une logique très britannique, dans cette école privée, dans un vieux château, avec des uniformes où les étudiants sont par maison. C'est très anglais, ça. C'est très, très anglais. Et chacun revendique l'identité de sa maison au sein même de l'établissement et tout. C'est très, très britannique. T'as ça dans les pensionnats anglais, effectivement. Les pom-pom girls aussi. Mais oui! Non, mais bien sûr, les compétitions entre établissements scolaires aux États-Unis, c'est dans une culture de concurrence entre établissements. Donc, il faut avoir la meilleure équipe de pom-pom girl, il faut avoir la meilleure équipe de foot, il faut avoir la meilleure équipe dans les tournois d'échecs, le meilleur club d'échecs et tout. Voilà. Mais c'est une logique qui est propre à la culture scolaire américaine, quoi. Les meilleurs nerds aussi. Bah ouais, les concours de. Bah, vous connaissez. Vous êtes comme moi, vous avez grandi dans une culture mondialisée, très américanisée. Vous connaissez comme moi, oui, dans les films, on voit ça, les clubs d'échecs, les clubs de maths, les clubs de lycée où il y a des compétitions nationales et fédérales aux États-Unis. Tout le monde essaye de remporter le truc, quoi. Ce sont aussi des produits marketing, vu que les universités et les grandes écoles sont financées par des entreprises et fondations privées. Ouais, absolument. Je suis toujours impressionné par le temps d'antenne qui peut être accordé à l'uniforme, alors que c'est un sujet tout ce qui est de plus mineur. Oui, mais bon, ça parle à beaucoup de gens. C'est un marronnier qui. En soi, l'uniforme peut avoir des points positifs. Il peut. En fait, c'est vraiment une question de perception. Encore une fois, là, je vous le redis, j'ai un point de vue personnel sur le sujet que je suis en train de défendre devant vous. Je suis en train de vous dire à quel point moi je suis contre l'uniforme. Enfin, je suis contre l'uniforme. Quand je dis que je suis contre l'uniforme, je veux empêcher personne de porter un uniforme. Donc, si une école privée met en place un uniforme, je m'en fous, c'est son problème. Les écoles publiques dans les Caraïbes françaises qui portent, dans les Antilles françaises qui portent l'uniforme, je veux pas leur retirer. Je veux continuer comme ça si ça convient à tout le monde et si c'est une culture locale et tout, il n'y a aucun problème. Je veux pas empêcher les Américains de porter l'uniforme, les Anglais, les Japonais, les Coréens. Fait continuer, je m'en fous. Je suis absolument radicalement opposé à l'idée d'une uniformisation des jeunes en France, dans les collèges et les lycées dans lesquels il n'y a pas d'uniforme aujourd'hui. C'est à ça que je suis opposé. Mais ça tombe bien, personne ne le propose sérieusement, donc en fait. Et donc voilà. Et qu'est-ce que je voulais dire? Et donc voilà, donc oui, même les arguments en faveur de l'école, à chaque fois, en fait, moi, c'est pour moi, en faveur de l'uniforme, pour moi, il n'y a aucun argument qui tient sérieusement, quoi. L'uniforme n'a en réalité aucun des attributs qu'on lui prête. On lui prête beaucoup d'attributs, mais à l'exercice, dans la réalité, dans les exemples qu'on peut avoir à l'étranger, on se rend compte à chaque fois que ça s'effondre comme un château de cartes, parce que c'est des projections, c'est des fantasmes, c'est des idées qu'on s'en fait. J'ai l'impression que le sujet de l'uniforme revient chaque année, mais ne passe jamais. C'est juste pour faire parler. Non, non, là, en l'occurrence, il y avait une proposition de loi du Rassemblement national pour imposer l'uniforme à l'école. C'est pour ça qu'on en a parlé dans les médias. C'est la seule raison. C'est l'idée que tu t'en fais, tu devrais assumer davantage ta propre subjectivité. Mais c'est ce que je suis en train de faire, je suis en train de vous dire que c'est mon opinion. N'y a pas une loi qui a été votée pendant la niche arène? Je crois pas, non. Ton opinion n'est pas assez subjective. Ah merde. Uniforme pour éviter aux élèves défavorisés de passer pour tels. Bah, ouais. Bon, ça revient à ce qu'on disait tout à l'heure sur le côté. Je suis désolé, hein, c'est presque gentil, mais ça ne les empêchera pas de passer pour tels. Dit de mon point de vue à chaque début de phrase. L'uniforme avait été proposé au dernier congrès LR. Oui, il y avait un candidat à la présidence du Parti Les Républicains qui avait proposé l'uniforme à l'école, au collège, au lycée et à l'université. À poil sous les toges à l'université. Pour avoir enseigné dans un établissement avec des tenues harmonisées, les inégalités se voient quand même, bien sûr, évidemment. Bien sûr. L'uniforme dans une fac, ça part en manif. Ah non, mais je pense pas que ce soit vraiment sérieux comme proposition, l'uniforme à la fac. Vraiment. Je sais pas dans quel pays tu vis pour croire que tu vas réussir à forcer les étudiants à porter un uniforme. Mai 68 bis, oui. Pour moins que ça. Dans le monde magique d'Harry Potter, peut-être. Non, Harry Potter, c'est un collège. Un uniforme pour les streamers. C'est un collège lycée? Ah, c'est un établissement de qualité. Polytechnique à l'uniforme, mais c'est historique comme Saint-Cyr. Ah oui, non, alors attention, confondez pas. Polytechnique et Saint-Cyr, ils portent pas l'uniforme. Hein. Ils ont un uniforme de cérémonie qu'ils portent à l'occasion de cérémonies, notamment militaires, parce que ce sont des écoles militaires, Mais en classe, tous les jours, ils sont pas en uniforme, hein, Polytechnique et Saint-Cyr. Non, non, pas du tout. Ils ont un uniforme qu'on appelle de cérémonie. Mais en cours, ils s'habillent en civil, hein. Est-ce qu'il y a des études sup de sorcellerie? Ouais, regarde sur Parcoursup. Saint-Cyr, ça porte quand même des treillis en manœuvre. Oui, mais là, tu parles d'exercice militaire. Non, mais oui. Techniquement, alors, si vous voulez qu'on se mette tous d'accord, on va se mettre d'accord. Techniquement, l'uniforme à l'école, ça existe déjà, parce qu'en cours de PS, vous avez une tenue réglementaire à porter. Si vraiment vous voulez aller dans le détail, techniquement, l'uniforme lycée, ça existe, puisqu'en cours d'SVT, vous devez porter une blouse blanche quand vous faites des expériences dans le labo. À la piscine aussi, oui, à la piscine, l'uniforme, ça existe aussi. Si vraiment vous voulez aller loin dans le détail, mais vous comprenez bien qu'à chaque fois, c'est pour des raisons précises. Jamais eu de tenue de PS ni de blouse. Alors, je sais pas dans quel bahut t'allais, mais moi, je te garantis que si t'arrivais en jean en cours de PS, tu te faisais virer, hein. C'était jogging ou short obligatoire, t-shirt, etc. Tous en maillot de bain à la fac. Sans blouse, pas de travaux pratiques. Ah oui, pareil. Mais en plus, c'est pour des raisons qui n'ont rien à voir avec les attributs qu'on apporte à l'uniforme. Saint-Cyr, c'est une école d'officiers, donc uniforme, c'est l'armée 100%, Polytechnique, c'est 1G, donc l'uniforme de cérémonie uniquement. Ah, je savais pas. Donc à Saint-Cyr, en cours, ils ont aussi une forme d'uniforme. Ok, d'accord. Ok. Est-ce qu'il y a un uniforme réglementaire pour assister à Baxit en public? Non. Non, mais je vous rappelle qu'effectivement, vous pouvez venir dans le public jeudi prochain, ça y est, en échange d'un don de 49,30 € pour soutenir financièrement Baxit. Hop, hop. Il suffit d'aller sur le Utip, vous allez dans le shop, et là vous pouvez prendre une place dans le public de Baxit. 49,30 €. Pif paf pouf. Venez, ça va être cool. L'émission est de 19h à 22h. Ouais, c'est ça. Et après, il y a un buffet. Pour vous remercier quand même pour votre don. Je viens de comprendre les 49,30 €. Ah, mais attends, on a de l'humour ici. Donc venez, j'ai hâte de voir vos bouilles. Venez dans le public, ça va être trop cool. Et après, le buffet avec les chroniqueurs, avec les équipes techniques, avec les invités s'ils veulent rester, etc. Donc voilà. C'est quand que tu dévoiles les invités? Ce sera au cours de la semaine. Ça, c'est comme l'année dernière. Les invités des émissions de Backseat sont communiqués sur le compte Twitter et le compte Instagram de Backseat au fur et à mesure de la semaine. Malheureusement, ce sera variable parce que ça dépend des acceptations et autres annulations de députés. Donc voilà. Le buffet est toujours vegan friendly. Oui, chafaud. Question, si on a des places inutilisées de la saison précédente, est-ce qu'elles seront perdues ou est-ce qu'on peut les réutiliser? Ah, bonne question. Bonne question, envoie un mail. Envoie un mail si t'as effectivement déjà fait un don l'année dernière pour venir et qu'on a annulé une émission effectivement en juin. Envoie un mail. Pour l'abonnement Prime, c'est un mois gratos ou chaque mois que dure ton abonnement? C'est-à-dire, il faut le renouveler tous les mois. J'ai passé 1 heure aujourd'hui avec Olivier Marleix. Pas ma sensibilité, mais trop content de rencontrer le président de groupe. Ah ouais, Olivier Marleix, c'est un gars intelligent. En plus, c'est le président du groupe Les Républicains. Ah, c'est intéressant, dans quel cas t'as passé du temps avec lui? Après, on va lire des articles, hein, promis. On a des articles à lire ensemble. Mais du coup, si vous, qu'est-ce que je voulais dire? Ouais, c'est ce que je disais tout à l'heure. Si vous allez à la manif à Paris, jeudi, n'hésitez pas à venir dans le public de Baxit après, parce que c'est pas très loin de la fin du cortège. C'est pas extrêmement loin. Et voilà. À Saint-Cyr, j'étais en treillis, mais la tenue avec le casard bleu, rouge et blanc, c'est pour les cérémonies du 2S et du 14 juillet, ou lors des mariages comme pour les officiers. Oui, ils peuvent la porter lors des mariages, baptêmes et tout. Oui, c'est ça, oui. Oui, ça, c'est la tenue de cérémonie, comme tous les officiers qui ont effectivement une tenue de cérémonie. Mais quand t'allais en cours tous les jours, t'étais en treillis. T'as peut-être déjà répondu, mais sur le shop de Baxit, est-ce que tu sais combien tu récupères si on achète un goodies? Oui, absolument, c'est moi qui ai fixé les prix. Sur le shop de Baxit, les goodies sont volontairement chers, puisque le but, c'est pas juste de vendre de. Moi, je suis pas vendeur de prêt-à-porter. Le but du jeu, c'est de financer Baxit. Donc, de mémoire, sur un sweat à capuche, on récupère 25 euros. Sur un t-shirt, on récupère 20 euros. Et sur un mug, on récupère 15 euros. Je crois que c'est ça. Je crois que c'est ça. Très bonne marge. Bah, c'est pour financer Baxit, hein. C'est ça. Moi aussi, j'aime bien les t-shirts, mais bon. Ça reste même raisonnable, le hoodie à 50 balles. C'est un don de 50 balles que vous faites. C'est un don de 30 balles que vous faites en échange duquel vous avez un joli sweat. C'est comme ça qu'il faut le voir. Ça reste un don à Baxit. Oui, ça reste un don à Baxit. C'est pour moi le plus important, c'est de financer Baxit. Donc voilà. Est-ce que c'est fabriqué en France? Probablement pas. Je pense pas. J'en sais rien. Pourquoi je peux pas cliquer? Je sais pas. Faut regarder. Sweat à capuche et Gildan. Quelle sera l'ampleur de la mobilisation? C'est une bonne question. On a des articles à lire justement aujourd'hui. C'est une bonne question, la question de l'ampleur de la mobilisation. Attends, je l'avais trouvé où? Hop, hop. J'ai un premier article que j'ai sélectionné qu'on va lire ensemble sur justement cette mobilisation. Donc je rappelle pour les personnes qui ne le savent pas que la réforme des retraites a été présentée mardi de la semaine dernière par la Première ministre Elisabeth Borne. Et que jeudi de cette semaine, c'est une journée importante puisque c'est le premier jour de mobilisation dans la rue pour les organisations syndicales et les opposants à la réforme des retraites, au report de l'âge légal notamment. Et en plus, c'est le jour de la première émission de la saison, de la nouvelle saison de Baxit. Donc c'est un jour important de cette rentrée politique. L'intersyndicale, donc ce qu'on appelle l'intersyndicale, c'est la coordination des organisations syndicales qui sont toutes d'accord. Hop, regardez. Premier article, Fabien Roussel exhorte 1 million de Français à déferler dans les rues le 19 janvier. Derrière les syndicats, donc les différents responsables de la gauche. Pour le coup, la gauche est unie en opposition à cette réforme. Toute la NUPES, tous les syndicats, etc. Il y a une unité à gauche qui n'est pas arrivée depuis longtemps, qui soutient cette mobilisation. Ça va faire 10 ans hein, qu'on n'a pas eu une telle mobilisation unanime. Il n'y a que ce rendez-vous qui compte, a estimé le secrétaire national du Parti communiste, réclamant à nouveau un référendum sur le sujet. Le secrétaire national du Parti communiste français, Fabien Roussel, a exhorté samedi 1 million de Français à déferler dans la rue le 19 janvier, première journée de mobilisation syndicale et politique contre la réforme des retraites. Public, privé, jeunes, retraités, nous devons tous sortir massivement. Soyons 1 million à déferler dans la rue. Il n'y a que ce rendez-vous qui compte, a déclaré Fabien Roussel dans le journal du dimanche. En meeting à Toulouse, la députée LFI Clémentine Autain a aussi estimé que le 19 janvier, il faut mettre le paquet. C'est à ce moment-là qu'on va établir le rapport de force. Plus on part haut, plus évidemment la montée en puissance va être forte. Va être forte, a-t-elle insisté auprès de l'AFP. Le patron de la CGT, Philippe Martinez, espère aussi des millions de Français mobilisés le 19 janvier. Fabien Roussel a de nouveau proposé de soumettre la réforme des retraites à un référendum plutôt qu'à un vote au Parlement. Nous voulons un vrai débat sur une réforme progressiste des retraites. Le peuple doit y être pleinement associé. Un référendum, c'est 6 mois de campagne. Quoi de plus démocratique que d'engager un débat dans les usines, les facs, les médias, projet contre projet, a souligné le député. Sauf que si je peux me permettre, un référendum, c'est pas vraiment projet contre projet. C'est pour ou contre un projet. Ce qui est dommage d'ailleurs, on pourrait imaginer un référendum dans lequel on propose aux Français scénario A, scénario B, scénario C, vous voyez. Le projet du gouvernement vise à reporter progressivement à 64 ans l'âge de départ à la retraite au lieu de 62 actuellement, tout en accélérant l'allongement de la durée de cotisation. Les principaux syndicats, unanimement opposés à cette réforme, se mobiliseront jeudi prochain pour une première journée de grève et de manifestation. L'ensemble de la gauche a appelé à rejoindre la contestation. Ces dernières semaines, Emmanuel Macron a organisé un simulacre de concertation. Les changements apportés au projet initial n'enlèvent rien à sa brutalité pour des millions de salariés. C'est lui qui fait le choix des armes, a déploré Fabien Roussel. Donc voilà, on est à l'aune d'une mobilisation. J'allais dire qu'il promet d'être importante. En fait, c'est difficile à dire. Et effectivement, je rejoins Clémentine Autain qui dit qu'il faut mettre le paquet dès le début pour une mobilisation, puisque c'est du premier jour de mobilisation que dépend la capacité de la mobilisation à faire masse dans les jours qui suivent. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que dans tout mouvement de mobilisation, c'est normal, les manifestants sont les premiers à s'interroger pour savoir si oui ou non ils sont au diapason de l'opinion publique, s'il y a du monde dans la rue, etc. Ce que je veux dire, c'est que quand on va manifester, si on participe à une manifestation dans laquelle il y a beaucoup de monde, on sera fortement incité à retourner manifester, à continuer le mouvement en se disant « ça vaut le coup, on est nombreux, c'est la preuve que je ne suis pas tout seul à penser ce truc-là, que ça vaut le coup, que je suis au diapason d'un mouvement, etc. » Et pareil, les personnes qui n'ont pas manifesté à la première manif, s'ils voient qu'à la première manif, il y avait beaucoup de monde, ils seront incités de fait à venir aux suivantes parce que l'effet boule de neige est important dans des mobilisations comme celle-là. Est-ce qu'il y a vraiment besoin de voir du monde dans la rue pour rester mobilisé? Ça aide. Tout ce que je dis, c'est que ça aide. Je ne dis pas que c'est mécanique, mais ça participe. Ça participe fortement. Pourquoi un grand nombre dans la rue pourrait inciter le gouvernement à changer d'avis? Parce que des manifestations d'ampleur, quand un gouvernement est en prise à un mouvement social massif, il peut être amené à vouloir retrouver le calme et la sérénité dans la rue. Et donc à revoir son projet, soit à l'amender, soit à le retirer. C'est déjà arrivé par le passé, le CPE en 2006, etc. etc. On retient les chiffres de qui? Là, c'est pareil. Les chiffres de la préfecture ou les chiffres des organisations syndicales, c'est pas très important. Ce qui compte, c'est le sentiment de faire masse. Je voyais d'ailleurs quelqu'un dans le chat tout à l'heure qui disait 1 million de personnes, c'est pas beaucoup, etc. C'est pareil. Quelle est la mesure du succès d'une mobilisation et d'une manifestation? C'est pas le nombre de personnes qu'il y a dans la rue au regard du nombre de Français qu'il y a dans le pays. C'est le nombre de personnes qu'il y a dans la rue au regard de mobilisations qu'il y a déjà eu par le passé. 1 million, c'est un chiffre symbolique, mais c'est un chiffre très important. Des manifestations dans la rue en France qui mobilisent plus d'un million de personnes, c'est rare. La dernière fois qu'on en a eu une, je crois que c'était une des premières mobilisations du mouvement des Gilets jaunes, au début, en décembre 2018. Et ils ont obtenu quoi? 17 milliards d'euros de mémoire de mesures sociales qui ont été annoncées par Emmanuel Macron dans son allocution du... je sais plus, c'était le 18 décembre 2018. Et le retrait surtout de la hausse de la taxe carbone, hein, qui était la première raison de la mobilisation du mouvement des Gilets jaunes. La taxe carbone a été... Il n'y a jamais eu 1 million pour les Gilets jaunes. Moi, je crois me souvenir qu'il y avait eu près 1 million, voire même plus 1 million pour l'un des premiers samedis de mobilisation. Comme beaucoup de manifs, le nombre de personnes dedans dépendra énormément de la météo qu'il fera. Oui, non, mais c'est ça. C'est-à-dire qu'un mouvement social de ce type-là, c'est une pluralité de facteurs. C'est l'impopularité de la réforme, alliée à la masse du nombre de manifestants, alliée potentiellement au nombre de grévistes et surtout à une grève suivie dans le temps, aux éventuelles aux éventuelles perturbations que provoque cet éventuel mouvement de grève. C'est lié aussi à la continuation à la continuité dans le temps de l'impopularité de la réforme. Est-ce que c'est aussi la question de l'opinion publique versus le mouvement. Est-ce que le mouvement est populaire ou pas? Est-ce que les violences dans la rue peuvent avoir un lien avec le sentiment du mécontentement de la population? Ça, c'est toujours un sujet intéressant, le fait que les manifestations soient émaillées de violences. Alors, soit-elle de l'initiative de la police ou de quelques manifestants, ça peut être intéressant de voir comment réagit l'opinion publique. Ça peut être intéressant de voir comment réagit l'opinion publique, soit ce qu'on appelle les casseurs dans les manifestations créent un sentiment d'insécurité qui incite pas à venir manifester dans les manifestations suivantes. Tu me diras, c'est les policiers aussi qui peuvent très facilement créer un sentiment de peur. De là à dire que les policiers font exprès de créer des violences pour inciter les gens à ne pas aller manifester, il n'y a qu'un pas qui est franchi par certains opposants. Ça arrive. Et ensuite, il y a aussi le relais au Parlement de cette mobilisation, quoi. Ça arrive quand même que certains éléments protégés par la police en apparence créent de la violence pendant les manifestations. Non, je parle pas de ça. Je parle pas de ça. Je parle de est-ce que la police fait exprès de provoquer des violences dans le but d'inciter les gens à ne pas aller manifester? Ça peut être une stratégie honteuse de la part du gouvernement. Est-ce qu'elle est soutenue par tous les partis d'opposition, cette manifestation? Alors oui, effectivement, tu as raison, Charulu, c'est un sujet aussi intéressant. Cette mobilisation est, enfin, l'opposition à la réforme des retraites présentée par Elisabeth Borne est commune à tous les partis d'opposition, à l'exception des Républicains, qui, bien qu'étant un parti d'opposition, souhaitent soutenir cette réforme. Ils l'ont expliqué. Mais à l'exception des Républicains, le Rassemblement national est contre cette réforme, et l'ensemble de la gauche est contre cette réforme. Donc oui, effectivement, vous avez raison, il y a presque tous les opposants, pas les républicains, c'est vrai. Est-ce qu'il y a des gens qui proposent des alternatives ou c'est simplement une manifestation pas content? Il y a des alternatives qui ont été proposées à l'occasion de l'élection présidentielle. Dans le programme de la NUPES, il y avait aussi le retour à 60 ans, l'âge légal de départ à la retraite à 60 ans à taux plein. Il y a le maintien en l'état de notre système de retraite avec la réforme Touraine. Il y a plusieurs contre-propositions qui sont faites, ouais. Il y a des propositions qui sont faites, avec des modes de financement différents, avec des augmentations de cotisations ou d'imposition, etc. Est-ce qu'une réforme doit toujours être populaire? Il n'y a pas de règle éternelle, d'autant que la popularité n'est pas. Effectivement, t'as raison. Est-ce qu'une réforme a une qualité intrinsèque? Est-ce que sa popularité est le seul. Est-ce que la popularité est le seul, la seule mesure du succès d'une réforme? Non, je ne pense pas. Pourquoi le RN est contre? Quels sont leurs arguments? Le Rassemblement national reprend les arguments, grosso modo, qui sont ceux des syndicats, même si ce n'est pas de leur camp. Marine Le Pen a dénoncé une réforme injuste qui pèsera davantage sur les travailleurs les plus précaires, les plus pauvres. La question que je me pose, est-ce que c'est une manifestation syndicale ou politique? C'est une manifestation d'opposition à la réforme des retraites, à l'appel d'organisations syndicales que les partis politiques invitent à suivre. Est-ce que ça répond à ta question? Est-ce qu'il y a des désaccords dans la majorité sur cette réforme? Pas à ma connaissance, non. Pour le coup, la majorité a l'air plutôt mobilisée en faveur de la réforme. L'entièreté des LR est pour la réforme ou c'est plus dispersé? C'est plus dispersé. C'est plus dispersé. C'est pas aussi évident que ça. Est-ce que tu as prévu de faire une FAQ sur les retraites? Ce serait super utile, je pense. Je la ferai probablement mercredi, cette FAQ. Je vais essayer. Mais du coup, pour ce qui est du RN, je vais relire un article aussi. C'est un deuxième article. Alors, c'est aussi le Figaro que je l'ai retrouvé. Les responsables du RN ne sont pas les bienvenus dans la manifestation, déclare Laurent Berger. Laurent Berger, le patron de la CFDT, qui dit la même chose que ce qu'avait dit Philippe Martinez, le patron de la CGT, disant que le RN n'est pas invité. Enfin, ils ne sont pas les bienvenus dans la manifestation. Voilà, le patron de la CGT, Philippe Martinez, a fait passer le même message à l'égard des élus du parti à la flamme, le parti à la flamme étant le Rassemblement national. La mobilisation doit être massive, mais elle n'est pas ouverte à tous pour autant. À 3 jours du premier rendez-vous de contestation de la réforme des retraites, les syndicats posent leurs conditions. À l'unisson des dirigeants de la CFDT et de la CGT, ont rappelé que les élus du Rassemblement national ne seraient pas les bienvenus dans leur rang. Pour les autres, les politiques doivent se contenter d'un rôle d'arrière-plan, en soutien des organisations syndicales. La concertation du secrétaire général de la CFDT, Laurent Berger, est aussi focalisée sur la réussite du jeudi 19 janvier. Elle doit être une démonstration de force dans la bataille contre les retraites. Celle-ci ne doit pas se faire de manière désordonnée pour autant et doit se soumettre à un cadre, pas de rassemblement national. En tout cas, les députés du RN ou les responsables, je ne souhaite pas qu'ils participent à les manifestations, ils ne sont pas les bienvenus, a déclaré Laurent Berger. Des manifestants qui défilent pacifiquement et des partis politiques derrière. C'est pas une manifestation politique, c'est une manifestation syndicale, a rappelé le syndicaliste au micro de France Info ce lundi, alors que la France Insoumise a appelé depuis plusieurs semaines déjà à une participation à une marche le 21 janvier, donc quelques jours plus tard. Ce message, le patron de la CGT, Philippe Martinez, l'avait déjà fait passer la semaine dernière. Il faut du monde. S'il y avait que les syndicats, on ne serait pas nombreux, avait-il d'abord reconnu sur BFM TV en affirmant que tout le monde est concerné, tout le monde sauf les élus du RN. On leur demande vigoureusement de ne pas venir, ils n'ont rien à faire parce qu'ils ne nous défendent, parce qu'on défend pas les, parce que nous ne défendons pas les mêmes causes, avait-il insisté, avant de préciser que cela ne concernerait pas les électeurs du parti à la flamme. Je n'ai pas dit que les partis ne sont pas les bienvenus, avait également relevé Philippe Martinez, voyant dans leur soutien une très bonne chose. Oui, les partis, oui, d'accord. La position défendue par les syndicats à l'égard du RN n'est pas une première. Le Rassemblement national lui-même, par la voix de son président Jordan Bardella, a récemment désigné les syndicalistes comme des complices d'Emmanuel Macron pour avoir appelé à voter pour lui au second tour de l'élection présidentielle. Le RN a par ailleurs précisé que sa lutte contre cette réforme ne passerait pas par les rues, n'empêchant pas ses sympathisants de se mêler aux manifestations. Le député du Nord, Sébastien Chenu, a malgré tout fait part de sa volonté à titre individuel de peut-être se mobiliser. Il n'y a pas de honte à manifester, a-t-il déclaré sur Europe 1 ce lundi. Moi, j'ai déjà manifesté, j'exclus pas de le refaire, a-t-il poursuivi. L'élu estime que chacun doit être sur sa mission, car il faut qu'on prenne en tenaille le gouvernement à travers le Parlement pour empêcher qu'une majorité se constitue. Il y a eu un don de 200 balles, merci Zeroro One pour tes 200 balles, merci beaucoup.
Je suis à l'aise financièrement, je ne me plains pas, non. Les affaires marchent en ce moment.
Merci beaucoup pour tes 200 balles à Baxit, merci beaucoup. Pourquoi insister sur le fait que c'est une manifestation syndicale et non politique? En fait, c'est une question de qui a le leadership et qui défile derrière qui. Une manifestation syndicale, c'est à l'initiative d'organisations syndicales qui appellent les travailleurs à se mobiliser et les partis soutiennent cette mobilisation, donc défilent derrière. En fait, ils soutiennent, donc ils sont derrière. C'est un peu symbolique ce que je dis, mais politiquement, c'est aussi important. La mobilisation du 19 janvier, ce sera le syndicat devant, l'intersyndical devant, les travailleurs, les syndicalistes, les gens derrière. Et derrière, les syndicalistes, il y aura les partis qui soutiendront et qui seront là aussi en cortège pour défiler. OK? À la différence de la mobilisation du 21 janvier, dans laquelle c'est une mobilisation à l'initiative des partis politiques, enfin pour être très exact, c'est une organisation à l'organisation des c'est une mobilisation à l'initiative des organisations de jeunesse, plein d'assos, de partis politiques, mais surtout de syndicats jeunes, à laquelle les partis politiques incitent à participer également. Donc il y a une coloration qui est davantage politique, mais ça change pas grand-chose. Que se passera-t-il si le RN vient aux manifs? Je pense que les. Ça dépend à quel endroit de la manif ils veulent s'incruster. S'ils essaient de s'incruster de... Enfin, s'ils essaient de s'incruster dans le cortège syndical, ils seront repoussés par le service d'ordre qui leur fera comprendre qu'ils ne sont pas les bienvenus et qu'il faut faire demi-tour, que c'est pas la peine de rester. Les partis politiques, à mon avis, pareil, derrière, leur diront cassez-vous. Et donc il leur restera à défiler tout derrière. Et comme il y a des risques de violence contre l'extrême droite, à mon avis, ils seront incités à quitter la manifestation. Raison pour laquelle je pense pas qu'ils prendront le risque d'y aller. Je vois pas Marine Le Pen aller dans la gueule du loup comme ça. Ça enverrait une très mauvaise image d'elle et tout. Ne pensez-vous pas que le système de retraite n'est pas juste un gigantesque Ponzi qui arrive à bout de souffle? Non, Ponzi, c'est pas ça, ça n'a rien à voir. Le syndicat Alliance peut manifester à Paris, ça promet. Alliance Police Nationale veut manifester à Paris, d'accord. Peut-on trouver une liste des manifestations auxquelles le RN aurait participé ces 10 dernières années? Les thématiques, la nature des combats, etc. J'en sais rien. Est-ce qu'il y a un ou plusieurs endroits où on peut lire en détail la réforme et où les propositions des autres acteurs politiques? Dans les médias nationaux, tu trouveras beaucoup d'éléments dans les médias nationaux. Le Monde, Le Figaro, Libération ont tous fait des dossiers dans lesquels tu as des articles qui récapitulent la réforme présentée par Elisabeth Borne. Tu as des analyses, tu as des interviews et tu trouveras les contre-modèles proposés aussi dans ces médias-là. En vrai, à mon avis, c'est le plus simple si tu veux avoir des infos. Reconquête, ils sont pour la réforme ou pas? J'ai entendu un micro tendu de comment il s'appelle Éric Zemmour, qui bafouillait beaucoup. Il avait dit, je crois qu'il s'était pas trop préparé à la question, qui expliquait qu'il était pour la réforme, mais du bout des lèvres. Est-ce que tu peux rappeler les positions politiques de la CGT et de la CFDT? La CGT et la CFDT n'ont pas de positionnement d'ordre politique. En France, le syndicalisme a une méthodologie, une méthode, une histoire particulière. La CGT et la CFDT sont des centrales syndicales qui représentent des organisations syndicales présentes dans les entreprises, dans les métiers, dans les services publics, etc. Et ce sont des organisations syndicales représentatives. Ce qui veut dire qu'elles ont obtenu des scores aux élections professionnelles leur permettant de siéger dans les différents organismes dans lesquels la parité sociale s'organise et donc qui font partie de la cogestion avec les organisations patronales. La CFDT et la CGT sont des organisations syndicales, ça veut dire qu'elles ne sont pas des partis politiques. La CGT et la CFDT ne présentent pas de candidats à des élections. La CGT et la CFDT ne soutiennent pas officiellement ni officieusement de candidats au premier tour des élections. La CGT et la CFDT n'ont pas de discours d'ordre politique sur toutes les affaires du moment. Ils ne portent pas une idéologie, ils ne prétendent pas à la gestion des affaires du pays, à son parlement, à sa présidence de la République, etc. Les organisations syndicales sont des organisations qui se donnent pour mission de défendre les intérêts physiques et moraux de leurs adhérents et par extension de l'ensemble des travailleurs dans le monde professionnel. Ok? Il se trouve que la CGT et la CFDT ont des traditions, si je puis dire, ou des philosophies d'action syndicale différentes. La CFDT est davantage portée sur la négociation, la signature d'accords d'entreprise, d'accords de branche et d'accords interprofessionnels, la recherche de compromis, que la CGT, qui est historiquement un syndicalisme davantage révolutionnaire, un syndicalisme de lutte, qui, sans s'empêcher de signer des accords, puisqu'ils l'ont fait beaucoup au cours des années 90 et 2000, reste quand même plus ferme sur ses positions vis-à-vis des propositions, qu'elles soient d'ordre gouvernemental ou patronal. Pas tous les syndicats, FO est politique et syndical à la fois. Non, Force ouvrière est une organisation syndicale. Tu confonds avec Lutte ouvrière, qui est un parti politique qui présente des candidats. Est-ce que tu sais où trouver des infos sur les manifestations qui auront lieu jeudi et samedi, mais pas à Paris? Non, je pense que le mieux, c'est d'aller à la source. Donc, il faut aller dans ton département ou dans ta ville. Essaye de checker sur les pages Facebook des partis politiques, des syndicats. Tu trouveras des infos. La CGT est très affiliée communiste. La Confédération générale du travail, la CGT, est historiquement proche de la gauche révolutionnaire au sens pré-Seconde Guerre mondiale du terme, c'est-à-dire les organisations proches du Parti communiste français. Mais pour autant, la charte d'Amiens est assez claire, le syndicalisme ne se mêle pas de politique et le politique est invité à ne pas se mêler de syndicalisme. D'ailleurs, l'histoire du syndicalisme français, l'histoire de la CGT et l'histoire du PCF est faite de rapprochements et d'éloignements. C'est un chouïa plus compliqué que ça. On ne peut pas dire que le PCF est la mainmise sur le Parti communiste. On peut pas dire que la CGT et que la. On peut pas dire que la CGT est la mainmise sur le parti. On peut pas dire que le parti est la mainmise sur la CGT. Plus compliqué que ça. Coucou, j'ai maté l'épisode 0 de la saison 2 de Backseat. C'est sympa de vous retrouver. Merci d'exister. Merci à toi, Mathieu. Ça fait plaisir. Merci. Pourquoi est-ce une mauvaise chose de supprimer les régimes spéciaux? Pour les personnes qui défendent le maintien des régimes spéciaux de retraite, ils estiment que la suppression des régimes spéciaux est un moins-disant social pour les bénéficiaires des régimes spéciaux. Les travailleurs qui jusque-là avaient accès à un régime spécial plus favorable auront désormais accès à un régime, au régime général qui est moins favorable. C'est donc une régression sociale à laquelle ils ne sont pas favorables. C'est aussi simple que ça. Poutou n'était pas représentant syndical et candidat NPA. Poutou est un ancien représentant syndical qui s'est lancé en politique. La double appartenance est autorisée, hein. Je ne suis pas en train de vous dire qu'un syndicaliste n'a pas le droit d'être membre d'un parti politique. Ou qu'un militant de parti politique n'a pas le droit d'être adhérent d'un syndicat. Est-ce qu'il est possible de faire un don régulier par mois à Baxit? Ouais, sur le Utip, tu peux faire un don régulier. Est-il prévu de toucher aux régimes spéciaux des parlementaires? Ils ont pas de régime, ils ont plus de régimes spéciaux, ils ont une caisse autonome. Mais c'est plus un régime spécial, ils sont alignés sur le régime général, les députés. Et les sénateurs aussi d'ailleurs. Les discussions à proprement parler sur la réforme des retraites n'ont pas commencé. Il n'y a eu que la présentation. Alors, pour être très précis, les discussions, le gouvernement a présenté sa réforme aux partenaires sociaux en amont de la présentation en direct sur la chaîne Twitch de Jean Mascier. Ils ont fait des réunions, ils ont discuté, ils ont négocié, ils ont échangé, etc. Donc il y a déjà eu un travail d'échange avec les organisations syndicales. Là, la réforme a été présentée pour son parcours parlementaire. Donc les discussions au Parlement commenceront au début du mois de février. On fait une revue de presse ou c'est juste Jean Mascier qui répond aux questions? Bon, on fait une revue de presse, mais du coup, comme on est en train de parler de la réforme des retraites et que vous avez des questions, je vous réponds quoi? Est-ce qu'il y a des syndicats dans les assos et les partis politiques pour défendre les droits des salariés? Oui, bien sûr. Est-ce qu'il y a des syndicats au Parlement? Oui, il y a des syndicats au Parlement pour les fonctionnaires et pour les collaborateurs parlementaires. Est-ce que la suppression de la rente à vie du président de la République est possible? Il n'y a pas de rente à vie du président de la République. Ça n'existe pas. Tac, tac, tac. Du coup, ouais, ça c'était le truc donc sur le rejet de la CFDT et de la CGT des responsables du Rassemblement national. Là aussi, il faut bien comprendre que historiquement, le syndicalisme en France a toujours été radicalement opposé à l'extrême droite, et que l'extrême droite a toujours été radicalement opposée au syndicalisme. La CGT et la CFDT ont dans leur statut fondateur des principes d'opposition, à l'extrême droite, au racisme, à la xénophobie, à l'autoritarisme, etc. Ils sont pour la démocratie sociale, la démocratie d'entreprise. Le Rassemblement national, le Front national et l'extrême droite française a toujours été radicalement opposé. L'extrême droite, ça a toujours été des casseurs de grève, ça a toujours été des gens proches du patronat. qui n'ont jamais hésité à casser les grèves, à faire le coup de poing dans les usines et dans les manifestations. Donc voilà, pour toute personne qui a un petit peu d'histoire du mouvement syndical, l'histoire de l'extrême droite et tout en France, le 19e et le 20e siècle plaident clairement pour une séparation stricte entre l'extrême droite et les syndicats. Est-ce que tu pourrais donner ton analyse sur l'utilisation d'un projet de loi rectificatif du financement de la Sécu? Ouais, je t'en parle après. Est-ce que les syndicats de droite, ça existe? Encore une fois, le fait que le syndicalisme soit différencié du politique rend difficile le fait de coller des étiquettes. Le fait qu'il y ait des proximités ou des porosités entre certains syndicats et certaines causes politiques, c'est pas nouveau. On sait que les organisations syndicales représentatives des employeurs sont historiquement, ça dépend lesquelles, mais sont historiquement plutôt proches du libéralisme, de l'autoritarisme et de la droite. Le MEDEF, le Mouvement des Entrepreneurs de France, qui est la première organisation syndicale de France, a toujours défendu l'idée qu'elle était proche de l'assouplissement des règles du Code du travail, qui est plutôt défendu par la droite. La CGPME aussi. L'UNSA, je les mets de côté parce que c'est les syndicats autonomes, donc par définition, c'est très différent, beaucoup plus corpo et tout. C'est quoi le positionnement du RN par rapport au projet de loi sur les retraites? Le Rassemblement national est opposé au projet de loi du gouvernement sur la réforme des retraites. Du patronat, tu veux dire que le plus grand syndic, c'est la CGFT dans le privé? Oui, du patronat, oui, t'as raison. Donc voilà, donc la CGT et la CFDT, il ne faut pas être surpris par le fait que les leaders de la CGT et de la CFDT excluent le Rassemblement national des manifestations de jeudi. Ça a toujours été comme ça, il n'y a pas de raison que ça soit différemment à l'avenir. Donc voilà. Est-ce que n'importe qui peut faire grève et aller manifester? N'importe qui a le droit de manifester, effectivement, c'est un droit protégé par la Déclaration des droits de l'homme et par la Constitution. Pour le droit de grève est un droit avec ses exceptions, notamment pour les militaires, pour les diplomates, on en avait déjà parlé, les magistrats, etc. Il y a certaines catégories de professions pour des raisons précises n'ont pas le droit de grève, mais du reste, voilà. Est-ce qu'il existe des syndicats pour les militaires? Est-ce qu'ils ont des règles différentes? Il n'existe pas de syndicats à proprement parler dans l'armée. Mais depuis peu, depuis que la France a été condamnée par les juridictions européennes, notamment sur ce sujet, il y a des systèmes d'organisation et de représentation dans les forces armées. Ça ressemble davantage à des associations qu'à des syndicats. Et ça permet une forme de dialogue social au sein des armées. Mais je dis bien une forme, faire très attention. Voilà, il y a des systèmes de représentation, d'échange, etc. Mais c'est très spécifique. Est-ce que je peux faire grève dans mon entreprise contre la réforme des retraites ou est-ce que c'est considéré comme une grève politique? Il n'y a rien à considérer, tu as le droit de faire grève dans ton entreprise. Tu as un droit de grève. Il y a des règles, il faut que tu te renseignes sur les règles en la matière, déposer un préavis, te déclarer gréviste. Etc. Mais ton employeur ne peut pas y faire obstacle et il ne peut pas te discriminer pour ça non plus. Voilà. Je bosse dans le privé, mon patron me menace de me virer si je participe à la grève, est-ce qu'il a le droit? Non, il n'y a pas droit. C'est un abus de sa position. Le préavis n'est pas obligatoire. Non, je réfléchissais, le préavis, j'étais en train de m'embrouiller dans ma tête parce qu'au moment où je l'ai dit, en fait, le préavis, c'est pour les services publics, on est d'accord. Ouais, c'est ça, c'est que dans le public, ouais. Ouais. Est-ce que c'est vrai qu'une amende européenne a été portée à la France au vu du non-droit de grève des militaires? Oui, la France a été condamnée. Ben justement, je sais pas, je suis dans le public et j'ai juste besoin d'envoyer un mail. Ben c'est ça. C'est un mail de préavis, non? Ou alors c'est peut-être pas dans tous les services publics, t'as peut-être raison. Ouais, c'est pas tous les services publics, c'est plus compliqué que ça. Mais c'est SNCF et tout. Même dans le service public, c'est pas obligatoire les préavis? Alors c'est dans les entreprises publiques alors? Tu dois te déclarer gréviste, ce qui n'est pas un préavis. Ah, c'est pas la même chose. Ah, oui, d'accord, ok, c'est pas la même chose. Dans les écoles, tu as une intention de grève à envoyer 48 heures à l'avance. Ouais. D'accord, ok. Le préavis, c'est un temps de prévention avant la grève. Mais dans le privé, même s'il n'y a pas de préavis, tu dois quand même informer ton employeur. Tu as une obligation d'informer ton employeur, ce qui me paraît logique parce que sinon, ça veut juste dire que tu viens pas au boulot. Ouais, c'est ça, le préavis, il est posé par les organisations syndicales. D'accord, le préavis de grève est posé par les organisations syndicales et la déclaration d'intention de faire grève, c'est différent. Il y a des règles spécifiques selon les... Ok. J'ai pas bien écouté, pour être en grève, il suffit juste de pas aller au taf. Tout ce que je dis, c'est renseignez-vous. Tout dépend du secteur, secteur public, fonction publique hospitalière. Je suis obligé de me signaler 24 heures avant, obligation de service. Ouais. Tout ce que je dis, c'est renseignez-vous selon votre profession, votre secteur, etc. Parce qu'il peut y avoir des règles qui s'appliquent spécifiquement. Et ne posez pas la question dans un chat Twitch. Ne vous contentez pas de l'information dans un chat Twitch. Allez vérifier. Ne vous mettez pas dans la merde. Ne vous mettez pas dans la merde. Soyez correct avec vos employeurs, informez-les. Bah voilà, faites en sorte de qu'on puisse pas vous reprocher de ne pas avoir respecté les règles. Hop, hop, hop. Qu'est-ce que j'ai d'autre comme article aujourd'hui? J'ai pas beaucoup d'autres articles sur la réforme des retraites et sur les grèves. On a déjà lu plusieurs. Hop, 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 hop. Et toi, si tu veux faire grève, il te faut un préavis. Moi, je dois obligatoirement déposer un préavis auprès de ma communauté 24 heures avant. C'est pire que ça, moi j'ai une obligation de service, donc je dois obtenir l'autorisation de mon chat avant de faire grève, si jamais je veux faire grève. Dans ta revue de presse, est-ce que tu as vu la ministre de la Culture dans Le Monde? Rima Abdulmalak, j'ai vu qu'elle a donné une interview au Monde, mais je ne l'ai pas lu encore. T'as pas l'autorisation pour jeudi. Je suis radin de profession. Si je fais grève, je fais un don à Baxit. Oui. Le stream conductif va être conduit. Non. La pseudo-polémique de l'interview de Mélenchon en Guyane, t'en penses quoi? Je sais pas, j'ai pas vu. Hop. J'essaye de trouver. Merci Yoshi, merci. Moi, je préviens toujours mes élèves et la direction du lycée où j'enseigne avant de faire grève, mais jeudi, je la fais pas car je tiens à mon salaire. Je comprends. Je comprends, je comprends, c'est pas facile. Non, j'ai. Alors, il y a dans Libération, il y a l'interview d'un pauvre streamer là. Je sais pas. Mec a donné une interview à Libé. Réforme des retraites sur Twitch. Ne prenons pas les jeunes pour des cons ou pour des élèves. Pour des milieux de jeunes, la politique se passe sur la plateforme. Jean Massier, streamer spécialisé en la matière, s'attelle à expliquer aux 18-35 ans la réforme des retraites. Je sais pas qui c'est ce guignol. Mais genre sur streamer, et il parle de la réforme des retraites? C'est d'emmerder tout le monde ce truc-là, non? Il est vulgaire ce gars. Ah ouais. Let's go, j'ai pas pu le lire. Vous voulez que je vous le lise? Va falloir que je fasse une imitation de Jean Massier, hein, c'est vachement dur. Je suis très mauvais pour imiter Jean Massier. Qui se trouve un vrai métier déjà. Ouais, j'avoue, de quoi il parle. Imite Usul, non. Avec plus de 190 000 abonnés. Eh, hey, vous êtes 190 000 abonnés sur la plateforme de diffusion de vidéos en direct Twitch. Merci pour vos abonnements. Merci. Pensez à Resub. 190 000. Mais attendez, faut que je passe en Subonly, hein. Attends, attends, attends. Hop là. Boum. 190 000, on passe en Subonly, hein. Y a pas. Vous êtes beaucoup trop nombreux, hein. C'est Libé qui l'a dit, hein. C'est Libé qui l'a dit. Avec plus de 190 000 abonnés sur la plateforme de diffusion de vidéos en direct Twitch, Jean Massier se place comme le premier streamer politique en France. Son objectif affiché, intéresser tous ceux que la politique emmerde. Celui qui a travaillé par le passé au cabinet de Marisol Touraine, alors ministre de la Santé, parvient à faire comprendre à sa communauté, dont la moyenne d'âge est de 24 ans, les enjeux pour leur avenir du chantier très complet. Attends, les enjeux pour leur avenir du chantier très complexe qu'est la réforme des retraites. Une manière de concerner une génération qui peut, au premier abord, sembler désintéressée. Les 18-35 ans ne se sont-ils pas concernés par la réforme des retraites? C'est une idée qu'on s'en fait. La réalité est plus complexe que ça. On sait déjà que les jeunes divorcent de la politique. Ça se manifeste parce que l'on estime être un désintérêt, notamment avec le phénomène d'abstention. Mais en réalité, les études sur le comportement des jeunes vis-à-vis de la politique montrent qu'ils sont très intéressés, mais qu'ils se détournent des moyens traditionnels et habituels de la politique, les partis et les syndicats. Les trucs de papa, quoi. En réalité, ce que je vois, c'est que les jeunes sont des citoyens comme les autres. Ils s'intéressent aux problématiques du moment, mais à leur manière. Comment faire pour les intéresser, justement? Bon, je vais retirer le sub only. Parce que, voilà. N'hésitez pas à vous abonner, hein, pour qu'on dépasse les 190 000 abonnés. Et ça financera Baxit, ouais. Ouais. Assez largement. Est-ce que les abonnements comptent dans la cagnotte pour Baxit? Non. Elle sort d'où les stats sur les moyennes de 24 ans? Elle sort d'une étude qu'on avait faite il y a 2 ans sur le profil sociologique des followers de la chaîne. Comment ils savent pour la moyenne? Parce que ils m'ont demandé, je leur ai dit. Comment faire pour les intéresser justement? Alors comment je fais pour vous intéresser? Expliquez-moi. Moi, je me borne à leur expliquer ce qui se passe. Qui dit quoi? Merci, Miroda. qui dit quoi et pourquoi ils le disent. Il ne s'agit pas nécessairement de prendre parti. La recette, c'est de ne pas prendre les jeunes ni pour des cons ni pour des élèves. Je ne leur parle pas comme un professeur. Je ne fais pas un cours sur le fonctionnement de notre système de solidarité. Je réponds à leurs questions de manière simple en prenant des exemples. Comment ça marche une cotisation sociale? À quoi ça sert? Je leur parle des caisses de solidarité, des caisses de retraite. J'explique grossièrement comment fonctionne le système de retraite, ce que le gouvernement lui reproche et ce qu'il veut en faire. Et je présente ce que les opposants à cette réforme ont à en dire. Il y a donc une demande de vulgarisation de leur part. Oui, complètement. La réforme des retraites, c'est typiquement le genre de débat public qui touche des sujets économiques et sociaux qui ont une complexité intrinsèque. Ouais, j'ai lâché intrinsèque, ouais, y a quoi? Comment on fait alors pour soutenir le retour de Baxit? Point d'exclamation Utip dans le chat. Fais chauffer la carte bleue. Jeunes comme vieux ont besoin de clarification et parfois de simplification. Pour le meilleur et pour le pire, il ne faut pas rentrer dans la caricature. Tous les plus de 50 ans ne savent pas parfaitement comment fonctionne le système des retraites. Tout le monde éprouve des difficultés à comprendre comment ça fonctionne. Même les gens qui travaillent dedans. Ce sont des phénomènes d'actualité qui intéressent les jeunes. Ce sera encore plus vrai si on a des manifestations monstres contre la réforme des retraites, comme on aura peut-être au cours du mois. Les acteurs du débat public ne sont pas les meilleurs vulgarisateurs du débat public. Ils prennent des positions et tombent rapidement dans les simplifications. C'est ce qui est intéressant avec la réforme des retraites. Tous les camps simplifient à outrance leurs propos. Le système est à deux doigts de mourir d'un côté et il va très bien de l'autre. Ils le savent que c'est une caricature, mais ça leur permet d'aller plus rapidement à leur conclusion. Là, mon rôle, c'est aussi de remettre de la complexité. Et à d'autres moments, c'est d'en enlever. Je m'imite très mal, hein, on est d'accord. Faut-il rester neutre? Je reste neutre dans le sens où mon opinion n'a pas beaucoup d'importance. C'est pas pour ça que je suis sur Internet. Ça m'intéresse plus de leur expliquer le positionnement des acteurs. En ce moment, je vulgarise sur pourquoi les partis politiques ont attendu de savoir quand les syndicats manifesteraient pour dire quand ils manifesteraient eux-mêmes. Il y a de nombreuses questions, ce que vous expliquiez tout à l'heure sur le syndicalisme. Il y a de nombreuses questions annexes autour de la réforme des retraites qui permettent d'explorer beaucoup d'autres choses en lien avec la politique, comme le paysage syndical qui est très mal connu, le paysage politique qui est en plein bouleversement, la mobilisation sociale et ses modalités, la négociation conventionnelle entre les partenaires sociaux. C'est aussi le cas de la procédure parlementaire. Par tous ces aspects-là, je tourne autour du pot qui est la réforme des retraites. Vous avez prévu des événements à ce sujet? C'est l'actualité qui va dicter mon programme. On verra ce qui se passe au Parlement et comment le gouvernement compte emmancher cette réforme. Je ferai des émissions spéciales de décryptage des débats parlementaires au moment de l'examen, lors de la discussion générale ou au moment des premiers articles. Si le gouvernement dégaine un 49-3, ça risque d'être plus rapide, mais je le ferai quand même. Voilà pour cette interview dans Libération. Incroyable, non ? Avec 190 000 abonnés, tu fais une cagnotte pour Baxit, rends l'argent. Putain, tu dis ça, t'es même pas abonné. Tu fais cette blague alors que t'es même pas abonné. Vous savez qu'avec Amazon Prime, vous pouvez vous abonner gratuitement à ma chaîne. Hein. Si vous avez un compte Amazon Prime, vous pouvez le lier à votre compte Twitch. Et ça vous permet de vous abonner à ma chaîne sans dépenser d'argent. Ça dit quoi les sondages sur la réforme? À peu près 2 Français sur 3 sont opposés à la réforme. Un peu moins, ça dépend. D'ailleurs, est-ce que tu peux faire un petit point sur le 49.3 et pour ça, pourquoi ça existe en démocratie? Il y a une vidéo sur ma chaîne YouTube qui répond à cette question, je t'invite à aller la voir. Merci, Kozark, pour ton Prime. Est-ce que je peux lier le compte Amazon de mon père à mon compte Twitch? Ouais, si ton père a un compte Amazon Prime, qu'il utilise pour se faire livrer des trucs et tout, tu peux utiliser son compte pour le lier à ton compte Twitch. Et ainsi bénéficier de cet avantage pour t'abonner gratuitement à ma chaîne. Trop bien. C'est-à-dire que ça coûtera pas plus cher à ton père, c'est ça que ça veut dire. Parce qu'il paye déjà son abonnement Prime. Ça fait partie des avantages de Prime. Merci Ingaya, merci Shorun TV. Pour info, Amazon Prime est gratuit si vous avez une Freebox. Tu déconnes? Sérieux? Est-ce que j'ai un pronostic sur la mobilisation de jeudi? Non, j'ai pas de pronostic sur la mobilisation de jeudi, c'est ce que je disais sur le plateau de Baxit la semaine dernière. Je suis vraiment curieux. Je suis vraiment curieux de voir quelle sera la mobilisation de jeudi. Est-ce qu'il y aura du monde? Voilà, ça va être très intéressant à suivre. C'est clairement la rentrée sociale du deuxième quinquennat d'Emmanuel Macron dans un contexte politique particulier. On verra. On verra et surtout j'ai hâte de voir les. C'est... La journée de jeudi sera intéressante à analyser. Merci Nawak33 pour les 5 subs offerts au chat.
Je possède des thunes, je suis à l'aise financièrement, je ne me plains pas, mes affaires marchent en ce moment.
Merci beaucoup. Merci, merci. Donc la journée de jeudi sera intéressante à analyser. Ça tombe bien, il y a Backseat. Putain, c'est vachement bien fait. Hein. On analysera ça sur Backseat. Mais ce qui pour moi sera intéressant à analyser aussi, ce sera la suite du mouvement social. Est-ce qu'il tient dans le temps? Est-ce qu'il mute? Est-ce qu'il évolue? Est-ce qu'il y a une grève qui se met à durer? Est-ce qu'on part sur un modèle type gilet jaune? Voilà. Gilet jaunisation. Pour ou contre la CGT? Ça n'a aucun sens comme question. Je vois pas ce que c'est... Enfin, pour ou contre la CGT, je comprends pas ce que ça veut dire en fait. Désolé, on était tous chez Usul. Alors j'ai vu qu'Usul avait accepté la proposition d'Europe Écologie Les Verts d'organiser une table ronde avec Martinez, c'est ça, et Marine Tondelier. C'est chouette, c'est cool. Ça s'est bien passé? Non, non, il a raison, c'est cool. Non, non, mais c'est cool. Il a raison. Il y a des gens du collectif Ibiza. Ils viennent de finir. Mais du coup, il est à Paris, Usul, je comprends rien. Hop. T'avais pas tort sur le fait que j'étais pas à Beau. Bien joué Nawak, merci. Qu'est-ce que je voulais dire? Donc du coup voilà, c'est ce que je vous disais sur... Putain, au moment où j'essaye d'enquiller là. Merci Foftouille, merci beaucoup pour les 5 subs.
Je suis à l'aise financièrement, je ne me plains pas, mes affaires marchent en ce moment.
Pensez à soutenir Backseat, évidemment. j'étais en train de dire, voilà, le mouvement social qui va démarrer va être intéressant à bien des égards. Il va être intéressant dans son ampleur, il va être intéressant dans sa persistance ou pas, dans sa méthode, dans l'équilibre entre nombre de manifestants et nombre de grévistes, dans l'unité, dans son unité syndicale et politique, dans la capacité ou non du Rassemblement National à rejoindre ce mouvement, même si pour l'instant ils en sont tenus à l'écart par les organisations syndicales et les partis politiques de gauche. Voilà quoi.
Comment on fait pour l'abonnement avec Prime? Il faut que tu ailles dans les paramètres de ton compte Twitch et que tu fasses une liaison avec ton compte Amazon.
Les viewers étaient super déplacés en vient de Marine Tondelier. Tu veux dire? Les petits misogynes. Les modos ont dû bosser à mort. Putain.
Ça existe des gens de gauche misogynes? T'es nouveau toi sur Internet.
Tu penses c'est qui le plus fort entre toi et Usul en vrai?
Qu'est-ce qu'on s'en branle?
Bon, excusez-moi, c'est extrêmement décousu. De toute façon, j'ai plus d'articles à lire. On a essentiellement parlé de la réforme des retraites. De toute façon, c'est pas compliqué. À partir de maintenant, ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'à partir de maintenant, on va rentrer dans une période politique importante qui va durer du temps autour de cette réforme des retraites. Emmanuel Macron joue gros autour de cette réforme. La NUPES aussi joue gros. Beaucoup de gens ont intérêt à ce qu'elle soit un succès. On verra. On verra quelle forme prend cette mobilisation. J'ai hâte de la suivre, j'ai hâte de la voir. Alliance Police Nationale appelle à rejoindre les cortèges jeudi. Mais c'est normal. Alors ça, c'est pareil. Il faut que je vous réexplique ça encore une fois parce que c'est important. C'est pas parce qu'Alliance Police Nationale est identifiée comme un parti de droite proche des thèses d'extrême droite sur le racisme, la xénophobie, l'autoritarisme, la violence, etc., que c'est pas pour autant une organisation syndicale. Une organisation syndicale, ça sert à quoi? Ça sert à défendre les intérêts des policiers. C'est ça, une organisation syndicale de flics. Ils défendent les intérêts des flics. Ce qu'ils estiment être les intérêts des flics, vous comprenez? Donc s'ils estiment qu'il est dans l'intérêt des flics de pouvoir continuer à étrangler des gens, ils vont se mobiliser pour pouvoir continuer à étrangler des gens. S'ils estiment qu'il est dans l'intérêt des policiers d'avoir un droit à la légitime défense, comme c'est défendu par le Rassemblement National, ils sont dans leur logique de syndicat, ils défendent les intérêts des policiers. Mais s'ils estiment qu'il est dans l'intérêt des policiers de ne pas avoir de report d'âge légal de départ à la retraite à 64 ans, bah ils se mobilisent aussi contre. Donc il ne faut pas... C'est là qu'il faut faire attention aux pièges de gauche, droite, etc. Le paysage syndical a une logique qui n'est pas celle du paysage politique partisan en démocratie parlementaire. Il faut réussir à faire la distinction entre les deux pour comprendre ce genre de logique-là. Donc, Alliance Police Nationale est un syndicat qui défend des propositions qui vont dans le sens de ce qu'ils estiment être les intérêts physiques et moraux, matériels et moraux, pardon, de leurs adhérents et des policiers, des agents de police. Et donc, ils peuvent se battre alternativement pour des trucs qui peuvent vous paraître bizarres et différents et défendus par des camps différents à l'Assemblée nationale, mais pour eux, c'est pas le cas. Vous comprenez? Ils vont défiler avec Force Ouvrière et la CGT. Mais vous savez que Force Ouvrière et la CGT sont pas anti-flics, hein. La CGT police, ça existe, hein. Force Ouvrière, chez les gardiens de prison, il y en a beaucoup. Il faut vraiment que vous compreniez la différence entre syndicat et parti politique, parce que sinon vous allez vous embrouiller et vous n'allez pas comprendre comment ça se fait que Alliance et CGT défilent côte à côte. Vous savez que tous les flics sont pas de droite? Mais vous savez surtout que vous pouvez tout à fait être de droite et être syndiqué, y compris avec une étiquette syndicale qui représente un truc historiquement lié à la gauche, et inversement. Vous pouvez être de gauche et être dans un syndicat qui n'est pas identifié habituellement. Enfin, il faut vraiment faire la différence entre appartenance syndicale et appartenance politique. Est-ce qu'ils vont manifester avec nous des gens qu'ils n'arrêtent pas de réprimer? Là aussi, il faut faire la différence entre le policier dans l'exercice de ses fonctions et le policier en tant que travailleur syndiqué qui peut avoir des revendications. Alliance, c'est pas la CGT de police non plus. Ah non, c'est pas les mêmes. Ah non, c'est pour ça qu'il y a un paysage syndical, de la même manière qu'il y a un paysage politique, il y a un paysage syndical. Et Alliance Police, je suis d'accord avec toi, c'est pas la CGT Police. De flics qui votent extrême droite quand même. Bah ouais, et l'extrême droite qui est contre la retraite à 64 ans. Donc... Les streamers n'ont pas encore de syndicat? Non. Nous, ce jeu, non. Enfin, il y a déjà des organisations professionnelles pour les créateurs de contenu sur Internet. Mais c'est plus la logique syndicale est pas, on peut pas l'appliquer aux streamers. Enfin, c'est pas exactement ça. On n'est pas dans une logique de rapport de force avec un employeur, même si ça y ressemble. Donc, ça ressemblerait davantage à un syndicat d'auteurs, tu vois, un truc de organisation professionnelle. Comment on sait le pourcentage de vote de droite pour les policiers? C'est pas censé être secret. Si, le vote est secret, mais il y a quand même des enquêtes d'opinion sur les votes par corps de métier. T'as jamais lu les enquêtes électorales sont hyper intéressantes. Donc voilà, non, ça c'est vraiment important. CGT Police, c'est une branche de la CGT. La CGT, en fait, la CGT, c'est une fédération. Vous pouvez créer, vous, une section CGT dans votre entreprise si vous voulez. N'importe qui peut créer une section CGT. La section CGT de votre entreprise, que vous allez créer avec vos collègues et tout, elle va se mettre en relation avec les autres sections CGT qui existent dans les entreprises du même secteur. Et vous allez retrouver, du coup. Salut Claire! Ça y est, t'es à Paris? Pardon, excuse-moi. Vous allez vous retrouver, du coup, dans des branches de la CGT autour du fond, enfin, autour des fédérations professionnelles. Donc il y a la CGT Service public, il y a la CGT Automobile, il y a la CGT. Enfin voilà, il y a des branches de la CGT. Et ce qu'on appelle la CGT, c'est la Confédération, donc c'est le centre fédéral, confédéral même, qui est la Fédération des fédérations. Est-ce qu'un streamer cotise pour sa retraite? Ça dépend de son statut et de comment est-ce qu'il se rémunère. Donc bref, je pense qu'il va falloir qu'on refasse des streams sur le paysage syndical parce que j'ai vraiment l'impression que c'est pas clair pour vous, notamment pour les aficionados du jeu des boîtes, du Zul gauche-droite là. C'est fou à quel point ça fout un bordel dans vos têtes ce jeu. J'adore, hein. Mais c'est voilà. Il y a des subtilités dans l'engagement politique. Gauche et droite. Moi, je comprends rien au syndicat. Ouais, et je me rends compte que j'ai du mal à l'expliquer. Moi, c'est clair dans ma tête, mais j'ai du mal à l'expliquer. Peut-être que je suis fatigué aussi. Ça fera un bon thème pour la FAQ politique de mercredi. Je pense qu'on va faire ça, ouais, mercredi on va faire une FAQ politique, syndicat, manifestation, etc. Mais du coup, c'est qu'il est méchant. Est-ce qu'il y a des mobilisations hors syndicat? Vous n'avez pas besoin d'être membre d'un syndicat pour vous mobiliser, hein. Merci le maringue. Je vais vous montrer le programme de la semaine, les copains. Toi, tu vas retourner là. Je vais vous montrer le programme de la semaine parce que cette semaine, il y a un truc trop cool qui va arriver, ça me fait trop marrer. Donc je vous rappelle, pour les nouveaux sur la chaîne, que je publie chaque semaine, enfin j'essaye de publier chaque semaine le programme de la semaine sur Twitter. Ok? Ça s'appelle la prog de la semaine. Ça ressemble à ça. Et vous avez du coup mes streams quotidiens avec l'horaire et ce dont on va parler. D'accord? Donc n'hésitez pas à aller sur mon compte Twitter, c'est là que vous retrouverez. Normalement, c'est mon tweet épinglé d'ailleurs. Aujourd'hui, donc là, c'était la revue d'actu. Demain mardi, on a les questions au gouvernement à l'Assemblée nationale qui commencent à 14h. Ok. Mercredi, donc, on fait une FAQ politique. Je pense qu'on va beaucoup parler syndicats, mobilisation, tout ça, tout ça. Jeudi, c'est l'émission Backseat à 19h. Soyez présents. Et n'hésitez pas à venir dans le public. Je vous rappelle que vous pouvez venir dans le public. C'est dans le shop du Utip. Et vendredi, j'ai le grand plaisir d'être invité à participer à une émission qui s'appelle Jump Seat sur la chaîne Jump Seat sur Twitch, qui fait partie d'AeroBuzz, qui est un média spécialisé dans l'aéronautique. Donc je vais parler d'avion. Donc trop bien, je suis trop content d'être invité par Jump Seat. C'est comme Backseat, ouais c'est ça. Backseat et Jump Seat. Donc on va parler des navions. Donc voilà, c'est une web TV spécialisée sur l'aéronautique. Et ils m'ont fait l'honneur de m'inviter, donc je suis un peu stressé, mais je vais venir répondre à leurs questions. Donc ce sera vendredi à midi. Voilà. Les navions, grave.
Je possède des...
Non ! Pardon. Excusez-moi. Tac, tac, tac. Toum, toum, toum. Est-ce que ça vous dit un raid chez Vincent d'Internet ? Vincent Manilev, qui est le nouveau chroniqueur sur Backseat. Vincent Manilev, donc je vous le rappelle, c'est un journaliste spécialisé sur Internet, le numérique, l'économie de l'attention, l'influence, tout ça, tout ça. Nouveau chroniqueur sur Backseat, qui va venir chaque semaine nous parler de numérique et de politique. Donc on va faire un raid chez lui, soyez cool avec lui. Il est en train de parler d'actu, tout ça, tout ça. Ah, il est avec Constance Villanova en plus. Ah oui, ils sont tous les deux avec Constance, ok. Amusez-vous bien, passez une bonne suite de stream. On se retrouve demain à 14h. Merci à vous, des bisous. Ciao, bye.